enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Bonsoir à chacun, que le Seigneur soit glorifié. Merci pour sa présence. Tout à l'heure, on a chanté que les montagnes s'éloignent, qu'elles soient jetées dans la mer. Alors, si vous le faites, d'accord, mais pas celles qui sont autour de Grenoble, parce qu'il y en a qui font du ski. Alors, choisissez comme il faut celles que vous voulez précipiter ou pas. Mais j'étais content qu'on parle spécialement dans ce chant de la foi. Si tu crois. Et c'est vrai que notre progrès dans la foi, c'était évidemment un des aspects essentiels de notre progrès tout court dans notre vie spirituelle. L'apôtre Paul a félicité une église de ce qu'il progressait dans la foi et dans la charité. Il dit même « chacun d'entre vous » aux Thessaloniciens. Alors, voilà, on peut se poser toujours des questions. Il faut de temps en temps faire un petit peu des bilans. Est-ce que je progresse dans la foi ? Est-ce qu'aujourd'hui, ma foi est exactement celle que j'avais au moment, j'allais dire, juste quelques temps après avoir été baptisé ? Quand on est sorti du baptistère, bon, un petit peu après, ben, on s'est séché. Mais une fois qu'on a été sec, on avait une certaine dose de foi. Est-ce que des années après, on en est toujours au même point ? Ou est-ce que notre foi se développe un peu, beaucoup ? À la folie, pas du tout ? C'est ce que nous allons voir. Alors, ce soir, je vous invite à... Nous allons parler d'un certain Thomas. Vous connaissez Thomas ? Un petit peu, non ? Ouais, il est connu, hein, c'est le patron des incrédules. Alors, je vous invite à lire d'abord un passage au chapitre 11 dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Et pour vous situer un tout petit peu le contexte, il s'agit d'un moment où Jésus a su que son ami Lazare avait été malade. Et Lazare, vraiment, c'était quelqu'un que Jésus aimait. Et il aimait aussi ses sœurs, Marthe et Marie, tout ça. Et Jésus, bizarrement, lorsqu'il a su que Lazare était malade et qu'on le réclamait, on se serait attendu à ce qu'il se précipite. Et puis, il a pris tout son temps, cool, il est resté à cet endroit-là, et finalement, les autres ne comprenaient pas très bien. Alors, nous lisons au chapitre 11, hein, dans Jean, j'ai dit, verset 5. « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours dans le lieu où il était, et ensuite, il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Ben, les disciples lui dirent, maître, il n'y a pas bien longtemps, les Juifs voulaient te lapider, tu es sûr que tu veux retourner là-bas, en Judée ? Mais Jésus dit, mais écoutez les gars, il y a bien dans une journée, il y a 12 heures. Si quelqu'un marche quand il fait jour, il ne peut pas trébucher, il ne peut pas tomber, parce qu'il voit la lumière, il voit clair. Mais bien sûr, si quelqu'un marche quand il fait nuit, alors ben, il tombe parce qu'il n'a pas de lumière. Et puis après avoir dit ça, il leur dit, notre ami Lazare est en train de dormir, mais je vais y aller et je vais le réveiller. Ah bon, les disciples étaient contents, ils ont dit, ben, alors Seigneur, ben, s'il dort, s'il se repose, c'est qu'il va être guéri. Mais Jésus avait parlé de sa mort. Mais eux, ils avaient compris qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, il leur dit, non les gars, vous ne m'avez pas compris. Lazare est mort. Mais à cause de vous, pour que vous croyiez, eh bien finalement, je suis content de ce que j'étais pas là-bas. Mais allons-y. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, un des 12, dit aux autres disciples, allons-y afin de mourir aussi avec lui. Et Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme vous connaissez tous l'histoire, il l'a ressuscité. Alors, un truc qui m'intéresse là-dedans, c'est la phrase, la position de notre ami Thomas. Je dis notre ami, c'est une façon de parler, quoi. Hein. Choisissez vos amis où vous voulez. Alors, donc, Thomas a dit, allons aussi afin de mourir avec lui. Et voyez, quelque chose qui est intéressant dans la Bible, qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons tous une certaine approche du texte, une approche qui nous est personnelle. Et sans s'en rendre compte, quand on lit un texte biblique, quand on le lit dans notre tête, nous mettons un certain ton à la lecture. On le lit avec ce qu'on pense qui transparaissait dans des sentiments, des intentions des personnes qui l'ont dit. Mais quand on le lit souvent, dans le ton, dans la lecture normale, il n'y a pas de ton. Hein, par exemple, si j'y ai pas mis de ton, mais on a lu comme ça, sur quoi Thomas appelé Didyme dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. C'est sûr que Thomas ne l'a pas dit comme ça. Il l'a dit d'une manière qui reflétait ce qu'il pensait quand il a dit ça. Et suivant le ton qu'on donne à une certaine phrase, elle peut avoir un sens complètement différent. Vous pouvez dire exactement les mêmes mots à quelqu'un et ce sera une marque d'affection, ou alors ce sera méprisant, ou alors ce sera ironique, peut-être même ce sera agressif, ce sera méchant, quelquefois avec exactement les mêmes mots. Donc si on ne sait pas comment ça a été dit, ça peut avoir beaucoup de sens différents. Alors qu'est-ce que Thomas voulait dire ? Et comment est-ce qu'il l'a dit ? Alors je ne sais pas comment dans votre tête, quand vous le lisez, comment vous lisez cette phrase ? Il y a plusieurs tons possibles. Par exemple, j'imagine que quelqu'un lit ceci, il le lit sur ce ton-là, j'imagine. Hein. Sur quoi Thomas appela Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Vous voyez ? On peut le voir comme ça. Hein. Peut-être même, je l'imagine, la main sur le cœur. Hein. Théâtral. « Allons aussi, et mourons avec lui. » C'est bien comme ça, non ? Hein, on peut le voir comme ça. Moi, je ne suis pas sûr que Thomas l'ait dit comme ça. Pour moi, dans ma tête, j'ai l'impression que ce n'est pas ça. J'ai l'impression que Thomas a dit « Bon, ben allons-y, et puis voilà, puis on y restera tous. » C'est moins héroïque. Ça fait moins une belle image, quoi. Voyez, nous, on peut avoir une approche de notre Thomas, là. On peut avoir le sentiment que ce jour-là, il a réellement mis sa vie sur l'autel, puisqu'il dit, il accepte ici sa propre mort, il accepte le principe de mourir avec Jésus. Ben, qu'est-ce que vous en pensez ? On va dire, ben alors ça c'est quand même quelqu'un qui, c'est fantastique, c'est un des premiers parmi les 12, c'est un des premiers qui ait accepté le principe du martyr. Maintenant, j'aimerais vous souligner quelque chose avec vous. C'est que dans la pensée des 12, la mort de Jésus, pour eux, ce n'était pas ce que nous pensons. Parce que nous n'en sommes pas au chapitre 11, nous avons déjà lu le chapitre 21. Nous savons que Jésus est mort, effectivement, et nous savons qu'il est ressuscité. Et nous savons que c'était réellement le plan de Dieu, qu'il était même descendu du ciel pour ça. Mais quand ils en étaient au chapitre 11 de Jean, eux, ils n'en étaient pas là. Eux, s'ils envisageaient la mort de Jésus, pour eux, dans leur conception, c'était l'échec de Jésus. Si, quand Thomas a dit qu'il pensait qu'en retournant en Judée, Jésus allait y mourir, pour lui, dans sa tête, il était en train de dire, d'une autre façon, il était en train de dire, Jésus va aller à Jérusalem, et vous verrez ce que je vous dis, ils vont finir par l'attraper, ils vont le prendre, ils vont le tuer, et puis voilà, et puis ça sera fini, il ne nous restera rien, ça sera un échec, ça sera une catastrophe. Nous, on a tout fait, on s'est donné aussi avec lui, on y a cru, on a pensé à un moment que, ah oui, il allait réussir, mais vous verrez, ça va tout. Non, ça va mal finir. Qu'est-ce qui va nous rester, nous ? On peut aussi bien mourir avec lui. Ça fait moins foi, hein, comme ça. Vu comme ça. Ça fait moins héroïque, hein ? Et je pense que c'est ça que Thomas est en train de dire.
Et vous voyez, c'est intéressant de remarquer que l'incrédulité peut quelquefois se mettre derrière des paravents qui lui permettent de jouer à l'héroïsme, qui lui permet de jouer à la foi, qui lui permet de se transformer en pseudo-acceptation même du martyr. Alors qu'en réalité ici, c'est seulement la confession de l'échec de Jésus, c'est la confession de leur propre échec, c'est la confession c'est une confession passive pour dire « tout va échouer ». Mais ça a l'air pas mal si on se laisse tromper à ça. Comprenez ? Voilà, ça c'est Thomas. Alors, ce n'est pas étonnant si, un petit peu plus loin, tiens, je vous emmène au chapitre 14. On va plus loin, hein, toujours dans Jean. Chapitre 14, c'est à peine un tout petit peu plus tard, quand Jésus a commencé, quand Jésus essayait de leur faire passer en quelque sorte son testament spirituel. Et dans les derniers jours, Jésus essayait de les encourager. Et au chapitre 14, justement, Jésus a commencé par une exhortation sur la foi. Croyez en moi. Il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. N'ayez pas peur, soyez pas dans l'angoisse. Croyez en Dieu, croyez en moi. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de demeures. Si c'était pas comme ça, je vous l'aurais dit. Écoute, je vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé, quand je vous aurai préparé une place, alors je reviens, je vous prends avec moi, et là où je suis, vous y serez aussi. Vous savez bien où je vais. Vous savez le chemin. Mais Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment est-ce qu'on pourrait savoir le chemin? Mais Jésus lui dit, mais Thomas, je suis le chemin. Je suis la vérité, la vie. Personne ne pourrait venir au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais déjà maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, écoute Seigneur, tu nous montres seulement le Père et ça nous suffira. Mais Jésus lui dit, mais Philippe, il y a tellement longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment est-ce que tu peux dire, montre-nous le Père? Tu ne comprends pas que je suis dans le Père? Tu ne comprends pas que le Père est en moi? Même les paroles que je vous dis, c'est pas de moi, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui demeure en moi et c'est lui qui fait toutes ses œuvres. Et voyez, on retrouve ici Thomas et son complice, là, Philippe. Et Thomas, encore une fois, exprime quelque chose qui, pendant longtemps, m'a finalement assez peu choqué. Parce que c'est vrai, Jésus dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et moi, je me mettais facilement, pendant longtemps, je me suis mis facilement à la place de Thomas et je me suis dit que, effectivement, si j'avais été à sa place, j'aurais bien pu dire quelque chose comme il a dit. Tu vas où? On n'en sait rien. Alors, on ne sait même pas où tu vas. Et quel chemin? On sait pas. Comment est-ce qu'on peut savoir le chemin de quelque chose qu'on ne sait même pas où ça va? Alors moi, ça m'a longtemps vraiment pas choqué du tout, ça. Parce que ça me paraissait une réponse tellement naturelle. Ça me paraissait une réponse tellement logique. Mais maintenant, regardez bien, faisons attention. Jésus vient d'affirmer deux choses. Jésus affirme très clairement deux choses. La première, il dit, vous savez où je vais. La deuxième, il dit, vous savez le chemin. Thomas prend la parole et il dit clairement à Jésus, en le regardant dans les yeux, il lui dit deux choses. Il lui dit, Jésus, tu viens de dire deux choses qui sont fausses toutes les deux. La première, c'est que tu prétends que nous savons où tu vas, et moi je dis que ce n'est pas vrai, nous ne savons pas où tu vas. Et la deuxième, c'est que tu prétends aussi que nous savons le chemin, et moi je dis que ce n'est pas vrai, nous ne connaissons pas le chemin. Est-ce qu'on ne va pas appeler ça de l'incrédulité? Voyez, dans l'épisode précédent, L'incrédulité de Thomas s'était exprimée à ses camarades. Thomas avait dit à ses camarades, allons et mourons avec lui. Mais maintenant, il y a comme une progression. Thomas regarde Jésus face à face, les yeux dans les yeux, et il est capable de lui dire, les yeux dans les yeux, Jésus, tu viens de dire deux choses fausses. Et comment ça se fait que nous, ça ne nous a pas choqué quand on a lu ça? Comment ça se fait qu'on a trouvé la réponse de Thomas si naturelle? Mais parce qu'on a le même problème. C'est pour ça que ça nous a semblé tellement naturel. On a dit, ben ouais, Thomas, bien sûr, c'est vrai. Alors vous voyez, souvent, nous passons des sortes de... Dieu nous fait passer des fois des sortes de tests, hein, des examens. Et souvent, quand on passe un examen, quand le Seigneur nous fait passer un examen, il ne nous prévient pas. Il ne nous avertit pas la semaine avant. Il dit, attention, mardi soir, 20h30, vous aurez un DS. Non. Ça arrive tout d'un coup, pouf, ça vous tombe dessus, interro flash éclair, paf, tu as une demi-seconde pour répondre. Hein. Et c'est ce que tu réponds à ce moment-là qui est intéressant. C'est intéressant par rapport à la foi, par rapport à l'humilité, par rapport à des tas de choses. Rappelez-vous, une fois, Jésus a fait un test de foi à ses disciples. Hein. Il y avait 5000 personnes et il leur a dit, hey, les gars, ils n'ont rien à manger, c'est tous ces braves gens. Ben, les autres, ils ont dit non. Ben, Jésus leur dit, ben, vous, donnez-leur à manger. Ils se sont regardés, ils ont dit, avec quoi? Et avec quoi? Or, le texte dit, Jésus disait cela afin de les éprouver. Mais eux, ils ne savaient pas qu'ils passaient un examen. Alors, ils ont commencé, ils passaient un examen de théologie et ils ont confondu avec un truc de maths. Alors, ils ont commencé à faire des calculs. Ils ont dit, voyons, voyons, donc dans une rangée comme ça, là il y a bien 500 personnes, donc 500, là ça fait 1000, 5000, bon. Alors un pain pour deux, 2500 pains, le pain en ce moment est un machin, il en faut 2 tonnes machin, alors pour transporter ça, des charrettes, bon. Alors la charrette en ce moment, on la loue, voilà. À la fin, il y en a un qui a dit 200 deniers, mais c'était pour dire... 200 deniers ou autre chose, de toute façon, ça ne va pas. Combien ils ont eu à l'interro? Zéro. Ils étaient hors sujet. On leur demandait de savoir comment on pouvait faire confiance à Dieu, ils ont répondu avec des chiffres. Jésus dit, mais vous n'avez même pas répondu à la question. Hors sujet. Alors, il a dû les nourrir eux-mêmes, mais la foule. Mais si ils avaient pris au sérieux la proposition de Jésus, ce n'est pas Jésus qui aurait fait la multiplication des pains. C'était eux parce que Jésus leur avait demandé à eux de le faire. Jésus leur, donc leur avait donné la capacité de le faire. Quand il leur a dit « donnez-leur vous-même à manger », ça veut dire qu'ils avaient la capacité de le faire. Mais ils ne l'ont pas fait ce jour-là. Alors Jésus l'a fait. Ils ne s'étaient pas rendu compte qu'ils passaient un examen. Et ici, Thomas ne s'est pas rendu compte qu'il a échoué complètement à un examen. Si, vous voyez, s'il avait fait attention, s'il avait dit « Seigneur, tu vois, Seigneur, là, il y a un truc qui me gêne, c'est que tu dis que nous savons où tu vas et que nous savons le chemin, et si je m'écoute, ça j'ai comme l'impression, en moi-même, ça me donne l'impression que je ne sais pas. Alors comment ça se fait? Toi, tu dis que je sais, donc si tu dis que je sais, c'est sûrement que c'est vrai, c'est que je sais. Mais même si tout mon être intérieur me dit le contraire, c'est toi qui as raison, mais comment ça se fait? S'il avait déjà simplement posé la question sous cet angle-là, il avait déjà au moins largement la moyenne. Vous voyez, l'incrédulité, ce n'est pas le fait de ne pas savoir ce que Dieu a dit. C'est le fait de le remettre en question. C'est le fait de s'y opposer. C'est le fait de le contrer. Et ça a toujours été comme ça. Dans le jardin d'Éden, c'était comme ça. Adam et Ève, le serpent s'est présenté devant Ève, et vous connaissez sa fameuse introduction, quand il a dit, mais, il a dit à Ève, il a dit, mais est-ce que vraiment Dieu a dit que vous ne devez pas manger de cet arbre-là? Est-ce que vous pensez que Satan ne savait pas ce que Dieu avait dit? Il savait bien que Dieu l'avait dit. Il savait bien que Ève le savait. Il savait bien qu'Ève savait qu'il le savait aussi. Bref, tout le monde savait tout. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il ne voulait pas poser la question de savoir si Dieu l'avait dit ou pas. Il était en train de dire que Dieu n'avait pas le droit de dire ça. Il était en train de dire d'une façon indirecte que ce que Dieu avait dit n'était pas bon, que ce n'était pas juste. Alors, comme Ève a commencé à discuter sur ce terrain, de remettre en cause ce que Dieu a dit, alors ça lui a donné l'occasion de préciser sa pensée. Et il a dit à Ève, il lui a dit, écoute, je crois que tu ne connais pas bien Dieu. Je vais t'expliquer comment est Dieu. Le problème de Dieu, il lui a dit, c'est que Dieu est égoïste. Dieu veut rester Dieu tout seul. Voilà, il est sur son trône là, il est Dieu tout seul, et il dit, non, je serai Dieu tout seul. Voilà, alors c'est pour ça qu'il veut vous empêcher d'être Dieu. C'est tout. Maintenant, si vous mangez de ce fruit, vous devenez Dieu aussi, voilà. C'est tout. Mais voilà, il veut son monopole de Dieu, il veut rester Dieu. Mais devenez Dieu avec lui, c'est bien, c'est bon. Et voyez, depuis cette époque, dans la chair de l'homme et de la femme se trouve l'incrédulité. L'incrédulité, c'est une puissance. Ce n'est pas seulement de l'absence de foi. L'incrédulité, c'est une énergie. L'incrédulité, c'est une puissance. C'est la puissance qui s'oppose à la puissance de la foi. La foi, c'est croire ce que Dieu a dit, mais non seulement croire que Dieu l'a dit, mais c'est croire que Dieu a raison de le dire, croire que Dieu a juste quand il le dit, croire que si Dieu l'a dit, c'est bon. Et l'incrédulité nous fait croire le contraire, soit remettre en cause, soit dire que ça n'a pas été dit, ou que c'est pas applicable, ou que c'est pas juste, ou que c'est pas bon, etc. Ce qui fait que nous devons nous rendre compte que nous avons tous naturellement un problème avec l'incrédulité, comme avec l'orgueil. Vous serez Dieu. Et depuis le jardin d'Éden, tout homme et toute femme a dans sa chair ces deux constituants. Ce sont les deux matériaux de base du péché. C'est l'orgueil et l'incrédulité. La chair est constituée de briques d'orgueil et d'incrédulité. Et tous les autres péchés sont la filiation de l'orgueil et de l'incrédulité. Soit de l'un, soit de l'autre, soit des deux à la fois. Mais les deux racines du péché, c'est l'orgueil et l'incrédulité. Et personne ne peut dire, mais j'ai pas de problème avec ça. Ce qu'il nous faut bien comprendre, c'est que ces deux racines sont des racines qui s'expriment quelquefois de façon extrêmement agressive, mais aussi, très souvent, de façon très sournoise. Comme l'orgueil peut quelquefois être extrêmement agressif, vous avez les « moi-je, moi-je, moi-je ». Bon, ben, même les inconvertis disent ça, c'est un orgueilleux. Tout le monde le voit. Mais vous avez des formes très diffuses. Et l'incrédulité peut aussi être extrêmement agressive contre Dieu, mais elle peut aussi se cacher derrière des paravents extrêmement sournois. Hein, comme Thomas, ici, a l'air, dans le premier cas, il s'est caché derrière un pseudo-sacrifice de soi-même, qui n'était que de l'incrédulité cachée. Ici, il semble se cacher derrière le raisonnement intellectuel. Puisque nous ne pouvons pas démontrer intellectuellement que ce que tu as dit est juste, alors nous ne pouvons pas l'accepter. Mais combien de fois ne fonctionnons-nous pas sur cette base-là ? Parce que notre fonctionnement intelligent ne peut pas démontrer la parole de Dieu, alors nous la remettons en cause. Et nous avons quelquefois tout à fait l'illusion de fonctionner de manière très raisonnable. Dans un certain sens, c'est raisonnable. C'est la raison de l'homme. Seulement, cette raison s'oppose à la foi en Dieu. Vous voyez, il y a une progression ici dans le comportement de Thomas. Je ne crois pas que Thomas était le seul des 12 à avoir été incrédule. Hein. Je crois que c'était leur problème, c'était un problème commun. Mais si Dieu permet dans sa parole, que ce soit souvent dans sa bouche que nous retrouvions ces expressions-là, c'est afin de les souligner particulièrement. Mais comme ici, par exemple, on voit ici Philippe qui fonctionnait exactement de la même manière que lui. Alors, est-ce qu'on peut encore aller un petit peu plus loin ? Toujours dans l'évangile de Jean, on arrive maintenant au fameux passage, le coup d'éclat de Thomas qui l'a rendu célèbre à travers les siècles. Chapitre 20. Chapitre 20, vous connaissez ça, verset 19. On est maintenant au moment où Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité, il est sorti du tombeau. Chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, donc un dimanche, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Et Jésus vient, il se présente au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il lui dit ça, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples étaient dans une telle joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, il souffla sur eux. Et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'était formidable. Le problème, c'est que Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Alors, quand les autres disciples lui dirent donc, quand il est revenu, ils lui dirent donc, « Thomas, Thomas, nous avons vu le Seigneur !» Bah, il leur dit, oh, moi, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Alors, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison. Et cette fois, heureusement, Thomas se trouvait avec eux. Alors, Jésus vient, les portes étant fermé, il se présente au milieu d'eux et de nouveau il dit « La paix soit avec vous ». Et puis, il cherche, il regarde, « Ah, Thomas !» Il appelle Thomas. « Thomas, viens voir. Thomas, avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main. Mets-la dans mon côté, Thomas. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Et Thomas répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Oui, Jésus dit, « Oui, bien sûr. Comme tu m'as vu, tu crois. Ouais. » Ça, c'est vrai. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous voyez, rien n'arrive par hasard. Même l'absence de Thomas la première fois, ce n'est pas un hasard. C'était normal qu'il soit absent. Il s'est pas rendu compte que quand il est parti faire des courses à Carrefour, il est allé parce que, en fait, il fallait pas qu'il soit là ce jour-là. Parce que sinon, il aurait vu Jésus comme tous les autres et il aurait eu l'illusion qu'il avait la foi. Alors, il n'était pas là. Et quand il est revenu, il était surpris parce que, auparavant, quand il a quitté ses petits camarades, ils faisaient des têtes comme ça, bien sûr, ils venaient d'enterrer Jésus. C'était horrible pour eux, l'univers s'était effondré. Et tout d'un coup, le voilà qui revient avec ses petites courses, rasant les murs, et il trouve les disciples avec des mines comme ça, des sourires. Ils étaient contents, ils sautaient dans la maison comme des puces, ils étaient tellement réjouis, c'était super. Quand Thomas est arrivé, il dit, Thomas, t'étais pas là? Écoute Thomas, Jésus est ressuscité, nous l'avons vu, il est venu, il a fait ça, il a dit ça, il a touché l'eau, il a fait ça, il a mangé avec nous, il était là, ils parlaient tous en même temps, Thomas dit, oh, hey, ça va les gars ou comment? Non, ils ont dit, Thomas, écoute Thomas, Jésus est ressuscité, nous l'avons vu, il est venu, il est là. Thomas dit, non, ça va pas. Je sais ce qui vous est arrivé. J'ai vu ça en psycho. J'ai vu ça. Ça s'appelle du délire collectif. Il y en a un qui en voulait tellement. Voyez, je vais vous expliquer comment ça se passe. Il en avait tellement envie de le voir qu'il a cru voir passer une ombre. Il a dit, oh là, oui. Et vous derrière, vous avez tous emboîté le pas. Et à la fin, vous êtes rentrés dans ce truc-là. Mais vous êtes fait berner. Jésus n'est pas ressuscité. Personne ne ressuscite. Moi, il faudrait vraiment que je le voie, et même, mais pas seulement que je le voie, il faudrait que je le touche même. Les autres lui ont dit, Thomas, tu nous connais, on ne plaisanterait pas avec ça. Thomas, on est des adultes, on n'est pas des farfelus, on n'a pas à fumer un pétard. Thomas, tu sais que si on te le dit, c'est que c'est vrai. Et Thomas s'en est tenu à son refus de la vérité. Vous voyez, ce n'est pas qu'il ne savait pas, c'est qu'il s'opposait à la vérité. Alors il a passé une semaine, la semaine la plus épouvantable de toute sa vie. Parce que maintenant, pendant toute la semaine, quand les autres disciples priaient ou chantaient, ils avaient changé de recueil de chants. Maintenant, ils chantaient des chants de joie, ils chantaient des chants de victoire. Quand ils priaient, il y en a qui disaient « Prions, oui, prions mes frères, alléluia !» Et lui, il était dans son coin, avec son recueil de complaintes. Il restait tout seul, personne ne pouvait s'associer à lui. C'était maintenant, il était tout seul. Personne ne pouvait prier avec Thomas. D'abord, Thomas, il ne priait pas. Il chantait des chants funèbres, peut-être, je ne sais pas, mais il était tout seul. Et il a fallu qu'il macère comme ça dans ce jus pendant une semaine, jusqu'à la semaine suivante. Heureusement, il n'est pas allé aux courses à la même heure, et Jésus est venu à ce moment-là. Et tout d'un coup, quand Jésus était là, alors, moi je crois qu'à la fois, Thomas devait être tellement content que Jésus soit ressuscité, et puis en même temps, il devait avoir tellement honte de ce qu'il avait dit la semaine d'avant. Honte de son attitude. Moi, je crois qu'il ne s'est pas précipité. Je le vois très bien derrière le groupe, caché derrière. Et Jésus a dit, Thomas, où est Thomas? Thomas, où est... Ah, Thomas, Thomas, viens voir. Ah, Thomas est venu. Et maintenant, Thomas croyait. Est-ce à dire que Thomas, maintenant, avait la foi? Ça, c'est une question. Thomas croyait ce que ses yeux voyaient. Mais la foi ne vient pas de ce que vos yeux voient. Thomas, maintenant, avait une connaissance. Mais Jésus n'a pas dit, c'est formidable maintenant là où tu en es, Thomas. Jésus a dit, ceux qui sont heureux, c'est ceux qui croient sans avoir vu. Donc, ça ne concernait toujours pas Thomas. Parce que lui, il était en train de croire parce qu'il voyait. Il n'était toujours pas concerné, là, par la foi. Vous allez me dire, oui, mais maintenant, il savait. Oui, il savait. Mais s'il ne fonctionne toujours pas par la foi, dès que demain, il ne verra plus, il sera toujours dans l'incrédulité. Quand nous fonctionnons par la vue, quand nous fonctionnons en fonction de ce que nous ressentons, de ce que nous vibrons, de ce que... voilà. Toutes ces choses-là, eh bien, dès qu'on ressent plus, dès qu'on voit plus, dès qu'on touche plus, dès qu'on vibre plus, dès qu'on n'a plus des sensations, eh bien, on est de nouveau au triple zéro. Et Jésus dit, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. C'est-à-dire, ce n'est pas la condamnation de l'œil, mais c'est pour dire que nous, enfants de Dieu spirituels, c'est par l'esprit que nous fonctionnons. C'est par l'esprit. Donc, il nous faut une démonstration intérieure pour croire qu'ils ne viennent pas de nos sens. Bien sûr, Dieu se sert aussi de nos sens, mais nos sens ne seront qu'un véhicule. Ça nous fera jamais l'économie de croire avec le cœur, même si nos yeux voient. Alors maintenant, Thomas reste devant la nécessité de développer sa foi, parce que demain, il ne verra plus Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire demain quand il aura... une difficulté, quand il devra pourvoir à ses besoins, lorsqu'il devra s'opposer à une puissance spirituelle. S'il marche toujours d'après ce qu'il voit, eh ben de nouveau, il va pleurnicher et il sera incapable de quoi que ce soit. Où en sommes-nous, frères et sœurs, avec notre foi? Vous savez, plusieurs fois, on a dit que Thomas avait un surnom, il s'appelle Didyme. En grec, Didymos, c'est un jumeau. Donc, tout simplement, ça veut dire que Thomas devait avoir un frère jumeau. Ils étaient deux. Bon, on ne sait pas. Et des fois, je me suis dit, mais à quoi ça sert que la Bible nous dise que Thomas s'était surnommé jumeau, qu'il a un jumeau, et puis on ne le voit jamais. J'ai dit, mais ça nous sert à quoi de savoir que
que Thomas avait un jumeau. On ne le voit pas. Il est où, ce jumeau? Et puis tout d'un coup, un jour, j'ai dit, mais bien sûr, ça y est, je sais qui est le jumeau de Thomas. Mais oui, c'est moi. C'est pour ça que la Bible nous dit que Thomas avait un jumeau et qu'elle ne nous le montre pas. Parce que chacun peut mettre sa petite carte d'identité en face. Frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre que l'incrédulité est une puissance diabolique, diabolique, qui s'oppose à ce que Dieu dit, à ce que Dieu est, à ce que Dieu fait, à ce que Dieu veut, à ce que Dieu promet. Et ça peut se réaliser des fois de façon très bizarre. Par exemple, vous avez quelqu'un, même un chrétien, je veux dire. Imaginez, vous avez des gens qui sont des travailleurs de force. Ils aiment leur travail. Et vous avez des gens comme ça qui bossent, ils se donnent à leur boulot. Alors bien sûr, ils gagnent plus d'argent, mais ils travaillent. Et quand tu leur dis, mais pourquoi tu bosses? Ils disent, oh, moi, je ne sais pas, moi, j'aime mon boulot. Pourquoi tu aimes tellement ton travail? Et vous savez, des fois, c'est parce que dans le cœur de cette personne, il y a eu depuis tout petit, il y a eu un moment où il a eu peur de manquer. Et parce qu'il a eu peur de manquer, il est maintenant dans une spirale où il lui faut toujours faire plus pour avoir plus. Alors on pourrait dire, oui, mais il y a un moment où quand il a beaucoup, il doit être assuré. Non, non, parce que l'incrédulité est une puissance spirituelle. Donc comme c'est une puissance spirituelle, vous ne pourrez jamais la combattre avec des biens matériels. Donc le gars qui est incrédule et à qui son incrédulité donne la peur de manquer, quand bien même il serait multimilliardaire, il a toujours peur de manquer. Parce que le matériel ne lui permettra jamais de détruire, de démolir une puissance qui est spirituelle. Alors vous pouvez dire, mais ce gars-là, il est à l'abri du besoin. Oui, du besoin matériel. Et il est toujours confronté à son problème. Et peut-être même il est chrétien. Et pour se rassurer et se justifier, se déculpabiliser, pour être bien avec lui-même, alors avec tous ses biens, il fait aussi beaucoup de bien autour de lui. Alors on lui dit que Dieu continue de te bénir puisque ça te permet de faire du bien. Il a besoin de délivrance. Peut-être pas de la délivrance d'un démon, mais il a besoin d'être changé en lui-même. L'incrédulité peut se camoufler derrière des choses très, très, très insidieuses. Imaginez quelqu'un dans l'église, ça c'est un cas typique qui arrive, imaginez quelqu'un dans l'église qui est extrêmement impliqué dans l'œuvre, hein. Quelqu'un qui se donne à fond dans toutes les activités de l'église. Tout ce que l'église fait, ah, j'allais dire, il est sur tous les coups, il est dans tout, il fonce. Et alors on dit, ça c'est un type engagé. Ça, c'est quelqu'un qui est consacré. Ça, c'est un battant. Ça, c'est quelqu'un qui est entier, formidable. Maintenant, peut-être que quelquefois, ce qu'il faudrait voir dedans, c'est quel est le ressort de cet activisme forcené. Et je vais vous dire comment, quelquefois, ce ressort peut être de l'incrédulité. Parce que vous avez des gens qui, depuis tout petit, ont cru qu'on devait gagner l'affection de Dieu. Alors toute sa vie, comme ce gars, il ne croit jamais que Dieu l'aime tel qu'il est. Il n'arrive pas à croire que Dieu puisse l'aimer gratuitement, pour rien, comme il est. Alors toute sa vie, il a besoin de faire quelque chose parce qu'il ne croit pas que Dieu l'aime. Alors toujours, il essaye d'en rajouter, toujours il essaye d'en faire plus. Et le ressort de cette hyper-consécration activiste, c'est de l'incrédulité. C'est embêtant ça, hein? Vous voyez, des fois j'ai un peu peur de donner cet exemple, parce que... parce que je ne voudrais pas donner une occasion de se saisir de ce que j'ai dit à quelques-uns qui sont bien engagés pour retomber maintenant dans la paresse. Hein, comprenez-moi bien. Je veux dire que ce cas est un cas possible, qui existe, et que ce n'est pas tous ceux qui sont engagés avec le Seigneur qui le sont pour cette motivation-là, mais que cette motivation
peut exister, qu'elle peut se cacher là-dedans. Les raisons, les preuves, les choses qui nous ont obligés à faire tellement de choses pour mériter les choses de Dieu, c'est de l'incrédulité. Il y a un tellement grand nombre de craintes qui sont motivées par l'incrédulité. Nous avons tellement de raisons de craindre. La crainte de manquer, la crainte d'être malade, la crainte de la mort, la crainte de souffrir, la crainte des catastrophes, la crainte de ceci, de cela. Et tout ça, c'est toujours parce que quelque part, à un certain moment, nous n'avons pas réussi à croire que Dieu nous aime, que Dieu nous protège, que Dieu nous garde, que Dieu nous dirige, que Dieu nous conduit, que Dieu pourvoit, etc. Il y a des tas de domaines où on n'est même pas conscient qu'on est incrédule. Nous, Français, aujourd'hui, 21e siècle, en France, quand on prie notre Père, etc., donne-nous notre pain quotidien, ça nous est tellement facile de nous faire à nous-mêmes le coup, l'illusion de la foi. Parce que notre pain quotidien, en réalité, il est assuré, la plupart d'entre nous, pour 6 mois d'avance. Alors on n'a pas de problème à dire « donne-moi mon pain quotidien ». Et on ne se rend même pas compte qu'on n'a aucune foi pour le pain quotidien. Et c'est pour ça que quelquefois, Dieu veut nous guérir. Et pour nous guérir, il est obligé d'abord de nous montrer qu'il y a un problème. Alors de temps en temps, Dieu va permettre peut-être que dans ta vie, à un certain moment, tout d'un coup, tu vas manquer du pain quotidien. Tu te couches un soir et tu ne sais pas ce que tu vas manger demain. Alors là, tout à coup, quand tu dis « Notre Père, donne-nous notre pain quotidien », tu sais maintenant si tu as la foi ou pas. Mais c'est seulement maintenant que tu le sais. Avant, tu croyais savoir. Avant, c'était facile. Mais quand maintenant ça devient réel, quand c'est éprouvé, quand c'est mis à l'examen, est-ce que j'ai la foi? Est-ce que j'y crois? Est-ce que ça va marcher? Je ne m'appelle pas Abraham, alors est-ce que ça va marcher aussi pour moi? Et parce que Dieu nous aime, il va nous mettre nos illusions sous le nez. Il va falloir qu'on s'aperçoive qu'on est incrédule. Et Dieu, après, veut nous traiter. Il veut nous aider. Il veut nous changer. Frères et sœurs, j'aimerais juste ce soir nous encourager à croire que nous pouvons faire des progrès dans la foi. Nous ne sommes pas obligés. Ce n'est pas parce que nous devons reconnaître notre nature d'incrédulité. Ce n'est pas pour ça que nous devons rester dedans. Et nous pouvons faire des progrès. Nous pouvons avoir, à la fin de cette année qui vient de commencer, nous pourrons avoir plus de foi qu'au 1er janvier. Et dans 2 ans, dans 3 ans, nous pourrons avoir plus de foi qu'aujourd'hui. Ce qui n'est pas normal, c'est que nous restions là où nous en sommes. Ce qui n'est pas normal, c'est que nous ne progressions pas. Toute la parole de Dieu nous invite à faire des progrès et nous invite à une démarche, à un changement. Et pendant que je parle ce soir, maintenant même, je sais qu'il y en a quelques-uns qui ne peuvent pas faire autrement que de se rendre compte face à eux-mêmes des domaines dans lesquels ils savent qu'ils sont incrédules. Ils disent « oui, c'est sûr, dans ce domaine-là, j'y arrive pas, j'y crois pas ». Alors quelquefois, on a... Il faut le reconnaître. Allez, on est entre nous. Hein? On ne dit rien à personne. Mais entre nous, il y a des domaines où on a capitulé. On a dit, bon, ben, moi, dans ce domaine-là, c'est vrai, là, je ne suis pas au top. Hein. Il y en a qui sont bons, ben, Seigneur, bénis-les. Quoi, hein. Mais ce n'est pas juste, il ne faut pas abdiquer comme ça. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber. Dieu veut te faire des progrès dans la foi. Dieu veut te faire des progrès dans la foi. C'est un travail. C'est pas parce que tout de suite, tout d'un coup, on va dire « Ouais, je prends une décision. » C'est bien, prends-la. Mais c'est pas ça qui va tout régler. Parce que c'est une bagarre dans le long terme. Ça va être c'est un combat, c'est une guerre de tranchées. Pied à pied. Il faudra prendre 1 mètre sur l'adversaire. 1 mètre par 1 mètre. Je refuse d'être incrédule. Je refuse. Chaque fois que nous sentirons dans les doutes, il nous faudra dire, non mais qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que je vais m'appuyer sur ce que tu as dit? Et alors on va gagner un petit peu, un petit peu, un petit peu. Il ne s'agit pas de faire des grandes déclamations téméraires. Il ne s'agit pas tout d'un coup de proclamer des tas de trucs et la guérison de tous les cancéreux du département. Il s'agit d'être vrai avec Dieu. Il s'agit d'être transparent devant sa face. Et Dieu nous fera faire des progrès. Frères et sœurs, je vous dis de la part de Dieu. Je vous le dis ce soir de la part de Dieu. Je vous dis ce soir de la part de Dieu que si cette année, et vous et moi, nous nous bagarrons pour faire des progrès dans la foi, Dieu dit qu'il nous fera faire des progrès dans la foi. Dieu dit qu'il nous fera faire des progrès dans la foi. Je vous le dis de la part de Dieu solennellement ce soir. Dieu nous fera faire des progrès dans la foi parce que les disciples eux-mêmes ont reconnu qu'ils en avaient besoin. Ils ont dit « Augmente-nous la foi ». Et Jésus n'a pas dit que c'était une mauvaise question. Il n'a pas dit « Oh les gars, attendez, vous prenez pour qui hein, vous êtes à quel niveau hein ?» Il a tout de suite parlé de ce qu'était le but qu'on atteint quand on est dans la foi. Il a dit « Ah oui, la foi. La foi. Avec un tout petit peu de foi. » Avec un rien de foi. Oh, pff, tiens, comme une graine de moutarde. Avec ça, vous dégagez une montagne. Jésus les voyait déjà là. S'il leur a dit, c'est bien parce qu'il imaginait qu'ils allaient y arriver. Non? Jésus, en quelque sorte, a cautionné leur demande. Il a admis leurs questions. Il a dit par là que c'était une bonne demande et qu'elle avait une issue, que ce n'était pas bête d'avoir demandé une chose comme ça. Il dit « Oui, les gars, vous avez raison, vous ferez des progrès dans la foi. Le but ultime de la foi, mais c'est qu'elle n'a pas de limite. Vous verrez, vous dites à cette montagne, allez, dégage, elle dégage. » Frères et sœurs, alors on va commencer peut-être pas par des grosses montagnes, on va commencer par des petites. Mais on va commencer le travail quand même. On va commencer par niveler les petites montagnes dans nos cœurs, dans nos raisonnements, dans nos pensées. Le Seigneur a dit, mais moi je ne ressens pas. Eh bien, tu t'en fous de ce que tu ne ressens pas. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. OK ? Nous ne savons pas le chemin. Oui, mais Dieu a dit que tu sais, donc c'est que tu sais. Donc tu dis, je sais, voilà. Oh, quelqu'un m'a dit, oh, mais ça, c'est peut-être pas très... Est-ce que c'est bien raisonnable ? Ben, ça ne l'est pas, voilà, laisse tomber. Mais ce que Dieu a dit... Frères et sœurs, ce que Dieu a dit, c'est qu'on peut avoir confiance en Dieu. C'est qu'on peut avoir confiance en Dieu. Tu peux faire des progrès dans la foi. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Seulement, ça va coûter. Seulement, ça va être dur. Seulement, il va falloir se bagarrer. Il va falloir payer. Il va falloir ramer. Il va falloir se battre contre soi-même. Peut-être contre les autres aussi. Ils vont dire, oh, laisse tomber. Tu ne laisses pas tomber. Et si ça chauffe, tu ne dis plus rien. Ce n'est pas la peine qu'ils te découragent. Mais toi, tu te fondes sur le Seigneur. Amen. Allez, on va prier. Fermez vos yeux. Seigneur Dieu. Oh, Seigneur notre grand Dieu. Le seul Dieu de tout l'univers. Le Dieu à qui rien n'est impossible, hein. Le Dieu de toute grâce, de toute compassion, de toute puissance, le Dieu de la foi. C'est vers toi que nous nous tournons. Nous avons besoin de foi. Seigneur, tu vois, nous pouvons dire, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, nous voulons un tout petit peu de foi pour qu'elle se multiplie, pour qu'elle grandisse. Je voudrais, Seigneur, ce soir te prier spécialement pour ceux parmi nous dans cette salle qui se savent vraiment en but à des puissances d'incrédulité. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, mon esprit et votre esprit assemblés pour ça, maintenant, nous ordonnons à ces puissances d'incrédulité, de contradiction de la parole de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, nous vous ordonnons de quitter les pensées. Je vous ordonne de quitter les cerveaux. Je vous ordonne de quitter les raisonnements. Je vous ordonne de quitter les corps. Je vous ordonne de quitter les vies. Je vous ordonne de quitter les relations de toutes les personnes qui sont esclaves de ça. Au nom de Jésus, puissance d'incrédulité, je vous ordonne, vous quittez maintenant. Vous quittez maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, Seigneur, merci pour la foi que tu as mis dans cette église. Merci Seigneur. Seigneur, c'est un grand réconfort pour nous. C'est un grand réconfort pour moi de savoir que tu as mis cette foi-là dans cette église, dans cette assemblée ici. Et vraiment, Seigneur, Seigneur, vraiment, je te remercie pour l'encouragement que c'est, non seulement pour moi, mais je le sais, pour des tas de tes enfants. Mais ce que je te demande, c'est que cette foi ne défaille pas. Ce que je te demande, c'est que cette puissance de foi continue de grandir encore. Seigneur, je te prie, Seigneur, je te prie encore que ce que nous avons vu ici puisse grandir encore, être multiplié. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je bénis cette assemblée, au nom de Jésus. Soyez bénis maintenant au nom de Jésus. Que les pasteurs, oh, que le papa, que les pasteurs, que les anciens soient bénis maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de la foi puisse encore être multipliée dans ce lieu. Que ce soit un étonnement, une stupéfaction pour le corps de Christ en France. Et pour notre pays. Merci Seigneur Dieu. Amen.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.